Vous savez tout, bonsoir, en effet. C'est lui.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez. La jurisprudence en évolution sur la question de la GPA, la gestation pour autrui. La Cour de cassation vient de rendre un arrêt important qui reconnaît dans un cas bien précis, mais qui reconnaît quand même la mère d'intention. C'est le cas de la famille Ménesson. Explication dans un instant avec Sophie Delpont. Nous évoquerons également le lancement des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. C'était aujourd'hui à Paris et Stéphane Robert y était. Nous irons en Irak et à Hong Kong dans ce journal où d'importants mouvements de contestation sont toujours en cours, de plus en plus durement réprimés. Et puis l'enquête de cette édition avec le service investigation de Radio France sera consacré au volet français de l'affaire Jeffrey Epstein. On retrouve Théo Hetch en fin de journal. Alors que la loi bioéthique est en cours d'examen à l'Assemblée nationale et que la majorité a créé la surprise hier soir en adoptant un amendement reconnaissant le statut de la mère d'intention, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt qui va dans le même sens en validant les actes de naissance de deux jumelles nées par GPA, gestation pour autrui, il y a 19 ans en Californie où la pratique est autorisée. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
C'est le cas de la famille Ménesson donc qui était examinée par la Cour de cassation, un cas bien spécifique, devenu emblématique pour les soutiens au recours à la gestation pour autrui.
Oui, tout un symbole. Sylvie et Dominique Ménesson ont encore du mal à réaliser qu'ils ont enfin obtenu ce dont ils rêvent depuis 19 ans, la reconnaissance de la filiation de leurs deux enfants nés d'une mère porteuse aux États-Unis.
Moi, je vois une chose, c'est le mot fin. Voilà. On peut respirer, quoi. On va pouvoir passer à autre chose.
Il n'y a plus cette épée de Damoclès au-dessus de nous. Maintenant, nos enfants ne sont plus des fantômes, ce sont nos enfants légalement parlant. C'est un long combat et on espère que cette décision va sérieusement faire réfléchir le législateur parce que c'est quand même son travail de mettre fin à cette situation. Et on espère donc que les amendements qui vont dans ce sens seront votés.
Et la ministre de la Justice a déjà demandé la tenue d'un nouveau vote sur cet amendement adopté hier soir à l'Assemblée nationale.
Ouais, alors Sophie, la question elle arrive tout de suite. Dans quelle mesure ce cas Ménesson peut-il faire avancer la jurisprudence en matière de GPA et puis dans quelle mesure il résonne avec le débat politique?
Alors à propos de la jurisprudence, la Cour insiste sur l'aspect très spécifique de cette affaire, soulignant une décision prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant compte tenu du délai très long qu'ont connu les jumelles Ménesson dans cette situation. Seuls des cas similaires pourraient bénéficier de cette transcription. Pour la plupart des cas, c'est l'adoption qui est préconisée par la Cour de cassation. Mais un principe est acquis, souligne Maître Patrice Spinozzi, l'avocat de la famille Ménesson. Tout comme la Cour européenne des droits de l'homme, cet arrêt pousse à la reconnaissance de la filiation des enfants conçus par GPA dans un cadre légal à l'étranger. La GPA reste une ligne rouge infranchissable, répond ce soir la porte-parole du ministère de la Justice. Reste bien sûr l'impact sur l'opinion publique et sur le débat politique de cette concordance entre l'affaire Ménesson aujourd'hui et le vote surprise de cet amendement hier soir à l'Assemblée nationale.
Merci Sophie Delpont. 150 citoyens tirés au sort pour un exercice inédit dans la vie politique française. Ils se sont retrouvés aujourd'hui dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental. Ils vont réfléchir, ces citoyens, sur les mesures à prendre dans les mois et les années à venir pour lutter contre le réchauffement climatique, si ce n'est pas trop tard, au sein de la toute nouvelle Convention citoyenne pour le climat. Les travaux de cette convention qui doit mobiliser ses membres lors de 6 week-ends de travail d'ici au mois de janvier ont donc débuté aujourd'hui. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir.
Vous y étiez. Mission affichée pour cette instance d'un nouveau genre, proposer au gouvernement des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici à 2030. Mais fin du monde et fin du mois ne sauraient s'opposer. On le sait depuis l'an dernier, le mouvement des Gilets jaunes. Toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat devront se préoccuper aussi de justice sociale.
Oui, votre mission ne sera pas simple, à commencer par mettre en garde le co-président du comité de gouvernance de cette convention, Thierry Pech.
On vous demande de faire des propositions structurantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre pays d'au moins 40% d'ici 2030.
Et la difficulté vient du fait que les solutions auxquelles on a pensé jusqu'ici n'ont pas vraiment fonctionné. C'est notamment le cas de la taxe carbone, dont la hausse décidée l'an dernier a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. Ce sur quoi le Premier ministre Édouard Philippe a fait un mea culpa.
Nous avons sous-estimé le besoin de nos concitoyens d'être associés, d'être consultés avant l'élaboration des politiques publiques. Et nous avons peut-être, de ce point de vue, utilisé de mauvais chemins.
Place donc maintenant aux citoyens, leur a dit le Premier ministre, des citoyens qui à ce stade ont le sentiment qu'on leur confie d'importantes responsabilités mais qui ne voient pas bien ce qu'ils pourraient proposer qui serait vraiment efficace.
Oui, on a des responsabilités puisque il va quand même falloir qu'on fasse des propositions qui tiennent la route. Bon après, comment elles seront interprétées, comment elles seront mises en application, ça je ne sais pas.
Ce qui est embêtant, c'est que ça c'est que pour la France et il n'y a pas que la France. Là c'est quelque chose, c'est mondial. C'est pas parce que tu es petit français que tu vas arriver à faire quoi que ce soit.
Les organisateurs ont donc tenté de les rassurer. C'est vrai que pour le moment, on leur a notamment dit l'un des garants de cette convention, le réalisateur de films Cyril Dion. C'est vrai qu'on ne sait pas bien ce qui en sortira, mais l'expérimentation, selon lui, vaut le coup d'être tentée.
Honnêtement, pendant des mois, je pensais qu'on n'y arriverait pas, enfin qu'ils seraient jamais assez fous pour faire ça, pour abdiquer un peu de leur pouvoir et vous le donner à vous. Et on y est. Donc je trouve que c'est déjà quelque chose d'extraordinaire.
Cette convention citoyenne sur le climat doit se réunir 6 week-ends de 3 jours durant jusqu'à la fin du mois de janvier. Le président de la République s'est engagé à ce que les propositions qui en ressortiront se traduisent par un référendum, des propositions de loi ou une réglementation qu'il conviendra d'appliquer.
Merci Stéphane Robert. Visite surprise et finalement mouvementée pour Emmanuel Macron au sommet de l'élevage de Cournon d'Auvergne, pris à partie par de nombreux éleveurs, notamment sur la question du traité de libre-échange avec le Canada. Le président de la République a expliqué vouloir être à leur côté. Il a notamment proposé d'autoriser la construction et le financement d'abattoirs indépendants en région, dans le cadre notamment du grand plan d'investissement agricole annoncé dans le cadre des états généraux de l'alimentation. Le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé aujourd'hui, comme c'était redouté, la liquidation judiciaire de la compagnie aérienne française XL Airways, qui aura donc été victime, comme avant elle Aigle Azur, de la guerre des prix. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Cette décision est synonyme de licenciement pour les 570 salariés de XL Airways. Le tribunal de commerce de Bobigny n'a pas retenu la seule offre de reprise déposée, celle de Gérard Rouat, ex-actionnaire majoritaire d'Aigle Azur, qui proposait de conserver la moitié des effectifs. Comment, Anne-Laure, on en est arrivé là ?
Eh bien, comme pour Aigle Azur, c'est le résultat d'une incapacité à survivre à une concurrence très forte, une compagnie qui n'a pas assez de fonds disponibles, dans un contexte en plus de renchérissement du prix du kérosène. Cette compagnie low-cost spécialisée dans le long courrier a notamment pris de plein fouet la concurrence de Norwegian Airlines sur les vols à destination des États-Unis. Côté repreneur, ils étaient très peu à se bousculer au portillon. Air France avait déjà indiqué ne pas être intéressé. Seule restait donc l'offre de Gérard Rouat, qui avait déjà candidaté pour la reprise d'Aigle Azur. Mais le tribunal de commerce de Bobigny a estimé cette offre irrecevable car non financée. Du côté de l'intéressé, on explique pourtant avoir mis sur la table 30 millions d'euros provenant notamment d'investisseurs chinois. Reste qu'aujourd'hui, c'est la douche froide pour les 570 salariés d'XL Airways qui vont être licenciés d'ici 21 jours. Pour les représentants du personnel, l'État est en grande partie responsable de cette liquidation parce qu'il a laissé s'implanter et même faciliter l'arrivée de compagnies aériennes à bas coût qui ont pour certaines contourné la législation française. Une concurrence donc déloyale selon eux. Du côté du ministère des Transports, on estime avoir soutenu l'entreprise dans sa recherche de solutions et on indique désormais qu'un accompagnement va être mis en place pour les personnels afin qu'ils retrouvent un emploi le plus vite possible.
Merci Anne-Laure Jumet. L'enquête avance lentement au lendemain de l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris, attaque qui a fait 4 morts en plus de l'assaillant. Dans une conférence de presse cet après-midi, le préfet de police de Paris avait assuré ne pouvoir encore exclure aucune hypothèse quant aux motivations du tueur. Une enquête pour homicide volontaire sur personne déposée de l'autorité publique est ouverte et on apprend à l'instant que le parquet antiterroriste finalement s'est saisi de cette enquête. C'est ce que confirme le parquet de Paris à l'instant. Une saisine au regard des éléments rassemblés à ce stade des investigations par les enquêteurs de la brigade criminelle. À l'étranger, en Irak, la situation est toujours aussi tendue. De nouveaux affrontements ont eu lieu aujourd'hui à Bagdad entre les manifestants et les forces de l'ordre. Depuis le premier jour des manifestations contre la corruption et la crise économique, 37 personnes ont été tuées dans le pays. Et dans les rues de Bagdad, les manifestants font désormais face à un énorme dispositif sécuritaire. Bonsoir Lucille Wasserman.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondante à Bagdad, en Irak. Vous avez assisté à ces affrontements entre manifestants et forces de l'ordre.
Écoutez, j'étais dans le centre-ville il y a moins d'une heure et la situation commençait déjà à se compliquer. Je me trouvais entre la place Tahrir Square et Sadr City, les deux grands points de rassemblement à Bagdad. Des dizaines de manifestants étaient déjà rassemblés lorsque soudain on a entendu des tirs qui ont provoqué des mouvements de panique et qui nous ont obligés à quitter les lieux. Un peu plus loin, les manifestants nous ont expliqué qu'un sniper était positionné à l'angle de la rue et que ce matin, une dizaine de personnes avaient été blessées. Laisser à cet endroit des témoignages courants ces derniers jours à Bagdad. On s'attend en tout cas ce soir à un pic de violence dans la capitale irakienne.
Et alors quelles sont les revendications de ces manifestants, Lucille ?
Écoutez, depuis le début de ces manifestations, ils disent vouloir de meilleurs services publics et surtout plus d'emplois. Ils critiquent le gouvernement et désormais tous les hommes de pouvoir dans le pays. Et c'est très intéressant car les grandes figures chiites qui soutiennent régulièrement ces manifestations et soutiennent ces manifestants sont elles aussi critiquées dans les rangs de ces protestataires aujourd'hui qui sont à majorité chiites. Des grandes figures comme l'ayatollah Ali Sistani ou le grand vainqueur des précédentes élections Muqtada al-Sadr sont elles aussi aujourd'hui critiquées. Ce sont deux personnes qui sont pourtant habituellement très respectées ici, surtout parmi la communauté chiite. On peut dire qu'il y a donc un ras-le-bol de la classe politique et religieuse, un ras-le-bol généralisé de toutes les formes de pouvoir et d'influence dans le pays.
Merci beaucoup Lucille Wasserman depuis Bagdad pour France Culture. À Hong Kong également, chaque jour qui passe voit la tension monter d'un cran et le niveau de violence atteint ces jours-ci dans les confrontations entre policiers et manifestants est inédit depuis le début du mouvement de contestation au mois de juin dernier. Aujourd'hui, les autorités hongkongaises ont invoqué les dispositions d'une très ancienne loi d'urgence pour interdire le port du masque pendant les manifestations, ce que la Chine a jugé extrêmement nécessaire. Évidemment, les manifestants y voient une nouvelle atteinte à leur liberté et se montrent toujours aussi déterminés. Le reportage sur place de Florence de Changy.
Entourée de ses principaux ministres, la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a tenté de justifier sa décision d'invoquer des lois d'urgence remontant à la période coloniale pour interdire le port du masque lors de manifestations non autorisées, tout en essayant d'être rassurante cet après-midi devant la presse.
Nous pensons que cette nouvelle loi va avoir un effet dissuasif sur les protestataires et les émeutiers les plus violents. Nous ne sommes pas en train de proclamer l'état d'urgence, mais nous sommes dans une situation de sérieux danger et il est essentiel de restaurer l'ordre et le calme dès que possible.
Mais l'opposition dénonce au contraire une mesure qui risque d'aggraver la situation. Tania Chan est députée du Civic Party.
Cette loi va simplement rendre les gens encore plus furieux et cela va les encourager à devenir encore plus extrêmes. C'est une violation du principe « un pays, deux systèmes ».
Cette décision a en effet eu l'effet inverse que celui escompté par le gouvernement. Des manifestations ont immédiatement eu lieu dans plusieurs quartiers, et notamment central, le cœur historique et financier du territoire. Le retour au calme annoncé par Carrie Lam n'est pas à l'ordre du jour, ni de la nuit.
Florence de Changy à Hong Kong. La face sanglante du gouvernement de Nicolas Maduro au Venezuela dévoilée dans un rapport de l'ONU dans lequel on apprend que depuis 2016, près de 18 000 personnes ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires. Un chiffre que dénonce également l'organisation Human Rights Watch, le résultat selon l'ONG d'un modèle de conduite systématique de la force publique. Les précisions d'Olivier Poujade.
Ce bilan macabre, même le ministère de l'Intérieur de Nicolas Maduro ne le conteste pas. En additionnant les chiffres des registres officiels depuis 3 ans et demi, le bilan dépasse même les 19 000 morts dans la catégorie résistance à l'autorité. Ce n'est donc pas tant le nombre de victimes qui alarme aujourd'hui les Nations Unies, mais les méthodes des forces d'action spéciale de la police vénézuélienne. Une justice de rue expéditive contre des citoyens critiquant ouvertement la politique de Maduro. Certaines zones reculées et certains quartiers de Caracas sont ciblés, comme le bidonville de Petare à l'est de la capitale, quartier historiquement chaviste, mais qui a basculé dans la contestation depuis 2016. Les commandos suréquipés de la police y multiplient ces crimes de sang-froid. Dans d'autres régions, des témoignages que nous avons pu recueillir évoquent des assassinats en pleine rue et le passage immédiat de camions militaires pour faire disparaître les corps.
Olivier Poujade, les nouveaux chiffres du chômage aux États-Unis arrivent exactement au bon moment pour Donald Trump, empêtré depuis un peu plus d'une semaine dans une procédure de destitution. Les créations d'emplois aux États-Unis sont restées fortes, quoique pas autant qu'espéré, en septembre, et le taux de chômage est lui tombé à son plus bas niveau depuis décembre 1969, il y a 50 ans. Il est à 3,5% de la population active, ce taux de chômage. Concernant la procédure d'impeachment, Donald Trump a déclaré tout à l'heure ne pas savoir encore s'il allait ou non collaborer avec le Congrès. Au Royaume-Uni, Boris Johnson serait-il en train de manger son chapeau ou fait-il de la politique? Comme d'habitude, après avoir répété à d'innombrables reprises ces dernières semaines qu'il n'était pas question de reporter la date du Brexit, pour l'instant fixée au 31 octobre, le voilà finalement bien obligé, le Premier ministre britannique, de respecter la loi dite du Benn Act qui interdit une sortie sans accord. On apprend cet après-midi que d'après des documents de la BBC, le gouvernement britannique s'apprête à demander à l'Union européenne un report du Brexit si un accord n'est pas trouvé d'ici au 19 octobre. À Londres, Haute-Soufie.
Boris Johnson répète à l'envi que le Brexit se fera le 31 octobre prochain, coûte que coûte, avec ou sans accord. Il l'a encore martelé hier devant les députés et qu'il préférerait être mort au fond d'un fossé que de demander une extension à l'Union européenne. Pourtant aujourd'hui, devant un tribunal écossais, les avocats du gouvernement ont produit un document officiel attestant que le Premier ministre enverra bien une lettre demandant un report du Brexit si aucun accord n'a été trouvé avant le 19 octobre. Et ce, en conformité avec une loi votée par le Parlement le mois dernier. Mais selon des sources haut placées à Downing Street, le texte n'interdit pas au chef de l'exécutif de s'exprimer publiquement et en privé contre une extension. La stratégie de Boris Johnson est donc un calcul hautement politique, respecter la loi mais tout faire pour montrer au peuple britannique que c'est contre son gré et ainsi préparer le terrain en vue des élections prochaines lors desquelles il pourra se présenter comme le défenseur du Brexit.
À 18h16 sur France Culture, la suite du journal avec l'enquête du service investigation de Radio France. L'affaire Jeffrey Epstein pourrait-elle devenir en France l'affaire Jean-Luc Brunel? Près de 2 mois après le suicide du milliardaire américain dans sa cellule de prison à New York, le français Jean-Luc Brunel, agent de mannequin, est en effet soupçonné d'avoir été le complice des agissements coupables de Jeffrey Epstein. Il a toujours démenti être impliqué dans les déviances sexuelles d'Epstein, mais Théo Hetsch, vous avez, concernant Jean-Luc Brunel, de nouvelles informations. Bonsoir Théo.
Bonsoir.
Si avec la cellule d'investigation de Radio France, vous nous parlez de Jean-Luc Brunel ce soir, c'est que vous avez recueilli un nouveau témoignage à charge.
Oui, Jean-Luc Brunel est accusé d'agression sexuelle et de viol depuis de nombreuses années par plusieurs femmes. L'une d'entre elles nous a raconté en exclusivité qu'il a harcelé plusieurs semaines avant de l'agresser sexuellement lors d'une soirée chez lui à Paris en 1988. Elle s'appelle Courtney Sorensen et elle est américaine.
Il s'est rapproché de plus en plus de moi. Il a mis ses mains sur mes reins. Il m'a alors dit que s'il pouvait me montrer comment faire plaisir à ses amis, il pourrait me trouver les meilleurs contrats possibles. Puis il m'a poussé sur le lit. Il a essayé d'enlever ma chemise. J'ai fini par m'enfuir de la chambre.
Et cette femme, Théo, Courtney Sorensen, n'a pas porté plainte?
Non, à l'époque, c'est une jeune mannequin à 19 ans. Elle est seule, loin de sa Pennsylvanie natale. Alors que Jean-Luc Brunel est un homme puissant dans le milieu de la mode, il dirige l'agence Karine Model et créera plus tard une deuxième agence à Miami, MC Square.
Et alors, quel rapport avec l'affaire Jeffrey Epstein?
Alors d'abord, Jean-Luc Brunel a voyagé une quarantaine de fois dans le Boeing privé de Jeffrey Epstein, qui lui-même aurait investi $1 million dans l'agence du Français à Miami. Mais il faisait plus que cela. Écoutez ce témoignage fait sous serment par l'ex-comptable de cette agence. Selon elle, Jeffrey Epstein payait des visas à des jeunes femmes sous couvert de mannequinat. Nous avons fait lire ses propos, ils n'ont jamais été diffusés en France.
Monsieur Epstein a commencé à mettre la pression sur Jean-Luc, car il ne voulait pas avoir de problème. Il voulait que toutes les filles aient un visa. Monsieur Epstein a payé directement les visas, mais les visas passaient par Karine et MC Square.
Et en contrepartie de ces visas, selon cette comptable, Jean-Luc Brunel a procuré des jeunes filles à Epstein, même des mineurs. C'est ce que dénonce une autre femme aux États-Unis, Virginia Roberts. Je vous préviens, ces propos que nous avons fait lire sont assez glaçants.
Le pire que j'ai entendu de sa bouche, c'était à propos de 3 jolies filles de 12 ans qu'il avait fait venir par avion pour son anniversaire. C'était un cadeau surprise d'un de ses amis, Jean-Luc Brunel, et elles venaient de France. Je les ai vues, je les ai rencontrées. Jeffrey s'est vanté après qu'elles étaient venues de France parce que leurs parents avaient besoin d'argent.
Jean-Luc Brunel n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Nous avons pu joindre en revanche son ancien avocat, Joey Titton, qui lui a parlé il y a encore quelques jours. Son ex-client nie être impliqué dans le réseau de traite des êtres humains d'Epstein. D'après lui, il se trouverait aujourd'hui en Thaïlande chez un ami.
Merci Théo Hetsch de la cellule investigation de Radio France. Votre enquête est à retrouver en intégralité sur notre site internet franceculture.fr. Je vous rappelle très rapidement l'information qui nous est parvenue pendant le courant de ce journal. Le parquet antiterroriste vient de se saisir de l'enquête sur l'attaque à la préfecture de police de Paris hier. Attaque qui a fait 4 morts, Florence Turme.
Oui, alors l'enquête vient d'être reprise effectivement sous les qualifications d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste, tentative d'assassinat avec une entreprise terroriste. On comprend bien la nouvelle dimension que ce qualificatif vient d'apporter à ce dossier. Jusqu'alors, le parquet antiterroriste était resté vraiment très proche de l'enquête pour surveiller tous les éléments qui intervenaient dans ce dossier. Pour l'instant, on n'avait pas repris cette qualification. Là, maintenant, il se saisit de l'enquête. Donc, ça donne une nouvelle dimension sans que l'on sache pour l'heure ce qui a vraiment présidé à cette saisine du parquet antiterroriste. Sans doute des éléments très factuels. Outre le fait que la personne en question s'était convertie à l'islam, ce qui n'était absolument pas suffisant pour marquer un signe de radicalisation. Mais là, cette fois-ci, on doit avoir des éléments plus tangibles. N'oublions pas que sa femme a également été placée en garde à vue, entendue. On peut supposer que ce sont ces éléments-là et les éléments de perquisition, peut-être l'exploitation de données informatiques qui ont permis d'aller jusque-là et d'orienter donc l'enquête vers cette nouvelle dimension.
On y revient dans notre journal de 22h. Merci beaucoup Florence Thuram. La météo, un temps automnal demain, toujours perturbé, notamment sur un grand quart nord-est du pays.